Il y a dans l'Ancien Testament de nombreux cas qui viennent émailler le texte et qui nous rapportent la bénédiction du nom de Dieu. Cette bénédiction, nous en avons parlé il y a déjà un certain temps lorsque nous avons parlé du culte, est la célébration de ce que Dieu est par lui-même et de ce qu'il fait, de ses œuvres en faveur de quelqu'un en particulier ou de son peuple en général. Je n'ai pas résisté à la tentation de citer quelques extraits de ces bénédictions. Béni soit le Dieu Très-Haut, qui a livré tes ennemis entre tes mains. Ce sont là les paroles de Melchisédek à Abraham en Genèse 14, 20, après le rapt du neveu d'Abraham. Béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui t'a envoyé aujourd'hui à ma rencontre. Parole de David à Abigaïl, la femme de Nabal, qui avait été si dure avec les envoyés de David. Béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui seul fait des prodiges. Béni soit à jamais son nom glorieux. Que toute la terre soit remplie de sa gloire. Amen. Amen. Ajoute le psaume 72. Puis, je vous invite à lire la suite du texte, car tout le psaume est une bénédiction d'un bout à l'autre. Mon âme, bénis l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits, et qui s'achève avec cette invitation, bénissez l'Éternel, vous tous. Même Nebuchadnezzar, dont nous connaissons la cruauté, s'arrêtera lorsque, constatant l'action puissante et extraordinaire de Dieu qui délivre Shadrach, Meshach et Abednego de la fournaise, même ce Nebuchadnezzar s'écriera: Béni soit le Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego, qui a envoyé son ange et a délivré ses serviteurs. Ce n'est là qu'un très petit florilège des nombreuses paroles de bénédiction de l'Ancien Testament, qui sont autant d'appréciation joyeuse et reconnaissante des œuvres de Dieu. Mais les évangiles gardent aussi la marque de la manifestation de cette piété, car c'était une pratique courante en Israël que de bénir l'Éternel. On parle de la tradition talmudique qui a conservé de l'histoire d'Israël et de la période, paraît-il, post-exilique, du retour des exilés de Babylone, ce que l'on appelle les 18 bénédictions, le Shemoneh Esrei, qui est une prière censée être répétée 3 fois le jour et qui fait l'énumération de 18 circonstances au cours desquelles sont associés aux événements vécus les noms d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, et sont accompagnés d'une bénédiction. Si vous voulez consulter, vous avez ici les 18 bénédictions et leur texte, j'ai essayé de le récupérer, je n'ai pas trouvé, mais si vous avez envie, vous pourrez peut-être les dire 3 fois le jour, mais ça risque de faire un tout petit peu israélite. Les évangiles gardent de cette pratique d'Israël la bénédiction du nom du Seigneur. Zacharie, lorsque Jean, son fils, est né, Jean, celui qui deviendra le Baptiste, s'écriera: Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ce qu'il a visité et racheté son peuple et nous a suscité un puissant sauveur. Puis, il est dit des disciples de Jésus, sitôt après l'ascension du Sauveur, qu'il se retrouvait après l'avoir adoré. Ils retournèrent à Jérusalem avec une grande joie et ils étaient continuellement dans le temple louant et bénissant Dieu. Puis, nous pourrions faire un petit tour dans les épîtres où encore cette marque de la piété juive se manifeste tout en étant une piété christianisée, ayant toute la formulation de ce christianisme institué par le Seigneur, de cette relation nouvelle et vivante que lui-même a inaugurée au travers de sa chair. Ainsi, nous avons vu, ces temps derniers, le texte de Corinthiens ou d'Éphésiens, nous avons lu ces textes, ils sont des bénédictions. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes et à peu près semblables. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation. Texte d'Éphésiens et de Corinthiens. La bénédiction s'entend du nom et de la personne de Dieu est généralement une expression publique. Le psaume 103 en est une belle explicitation. Et dans son expression, alors qu'elle célèbre la grandeur et la puissance de Dieu, elle est une incitation à le faire, adressée aux auditeurs ou dans les épîtres, adressée aux lecteurs, pour qu'à leur tour, ils emboîtent le pas à celui qui loue le Seigneur, qui le bénit et qu'il fasse leur les paroles qu'ils entendent ou celles qu'ils lisent. Ainsi en est-il du texte dans la première épître de Pierre. Je lirai les versets qui suivent notre introduction de la semaine dernière et auxquels je m'arrêterai en petite partie aujourd'hui. Donc, 1 Pierre 1, chapitre 1, donc, et versets 3 et suivants. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux, à vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable qui cependant est éprouvée par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous a été réservée ont fait de ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations, voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était à nous et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses, que vous ont annoncé maintenant ceux qui vous ont prêché l'Évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel et dans lesquels les anges désirent plonger leur regard. Pierre exulte en célébrant ici le Seigneur. Il le chante, il l'élève, il en dit du bien, c'est le mot de bénédiction. Si l'on le dissèque étymologiquement, béné c'est bien, diction c'est ce qui est exprimé, donc c'est exprimer du bien, exprimer ce qu'il a découvert de la personne de Dieu ou ce que Dieu a fait découvrir de lui-même. Il parle de sa divinité, il le célèbre pour cela, de sa paternité exprimée en Jésus-Christ, pour ce qu'il a fait, pour ce qu'il fait, pour ce qu'il fera, au travers même de la personne de son bien-aimé. L'expression de sa grande miséricorde porte un nom, Jésus-Christ. Cette miséricorde est à la dimension des besoins des pécheurs. Souvenez-vous de Jean 3,16. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Un amour capable d'absorber tout le déficit de la race humaine. Sa grande miséricorde. Capable d'effacer tout le rouge, si j'ose dire, des comptes humains. Dieu a exprimé cette miséricorde en, nous dit le texte, nous régénérant. Il nous a régénérés. Le mot unique dans le texte biblique qui se trouve en Pierre et qui est répété à deux reprises, deux fois, ici et au verset 23. Nous aurons donc à y revenir. Est un mot qui signifie un engendrement nouveau. Dieu nous a engendrés de nouveau. Il rejoint, par cette expression qui est unique à son livre, d'autres mots qui se trouvent dans Tite, où il est question de régénération, dans Jean, où il est question de naître de nouveau, de naître d'en haut et de nouveau, dans Jean encore et dans l'Évangile et dans l'Épître, il est question de naître de Dieu, et dans Jacques, il est question d'engendrer. De même que le Dieu créateur a agi sur cette masse pétrie, cette masse de terre pétrie et inerte, lui a insufflé le souffle de vie et fait de l'homme un être vivant, une âme vivante. De même que cet esprit va agir, si vous allez faire un tour du côté d'Ézéchiel 37, et va redonner vie à des ossements desséchés, cet esprit qui souffle sur ses morts pour qu'ils revivent, dit le texte. De même que Dieu dit, « Je ne désire pas la mort de celui qui meurt, dit le Seigneur. Convertissez-vous donc et vivez. » De même, Jésus annonce à Nicodème la possibilité, non d'un changement, non d'un rapiéçage, d'un rafistolage, mais la possibilité de jouir d'une nature complètement nouvelle, parce que spirituelle. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Et s'adressant ainsi aux autres, à ses semblables, aux hommes, le texte biblique précise bien que l'œuvre de Dieu, l'œuvre miséricordieuse de Dieu, c'est d'entreprendre chez l'homme un recommencement total, une remise à zéro. C'est de proposer à l'homme une réelle métamorphose. Il est de la terre, il deviendra du ciel. Tout en étant sur la terre. Il s'agit bien donc de l'entrée dans une réalité qui n'aura point de fin, dit l'Écriture. Vous connaissez cette parole de Jésus. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Parole qui laisse quelque peu pantois. Alors que nous voyons les disciples de Jésus-Christ mourir les uns après les autres, leur corps s'arrête de vivre. La vie céleste, elle, n'est pas interrompue. Ainsi, l'œuvre proposée par Dieu à tout pécheur est une œuvre entièrement nouvelle. Elle est procréation. Procréation dont l'esprit est le géniteur, si j'ose dire. Il est celui qui va accomplir cette tâche, c'est sa vocation. Celui qui naît de Dieu, selon les expressions que nous avons relevées, est quelqu'un qui est né de l'Esprit. Tant et si bien que l'apôtre Paul n'hésitera pas à écrire ce texte que vous connaissez bien, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature » ou « une nouvelle création ». Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Mais si nous regardons de près, je viens d'insister sur un aspect auquel Pierre ne s'arrête pas vraiment. Oui, bien sûr, il y fait allusion, mais il ne se cantonne pas seulement à ce commencement nouveau, à cette renaissance. Bien que ce soit là un sujet que nous estimerions suffisant pour célébrer, pour bénir le Seigneur, Pierre va au-delà de ce commencement, au-delà de la naissance nouvelle. C'est, somme toute, assez logique. Pourquoi ? Nous conviendrons les uns et les autres que la naissance n'est pas une fin en soi. Tout ne s'arrête pas lorsque l'on vient de naître. Nous ne sommes pas arrivés, nous sommes au début du parcours. Dans l'être humain, dans la chair, dans la naissance, nous voyons un bébé, nous voyons un nouveau-né, et nous savons que ce nouveau-né est projeté dans la vie, qu'il y a pour lui tout un avenir que nous espérons bon, long, heureux, dont nous ne connaissons rien, mais il y a pour lui en principe, en puissance, des années d'évolution. Pourquoi en serait-il autrement dans la vie spirituelle ? La naissance à la vie nouvelle, une nouvelle naissance, n'est pas une fin en soi. Ce n'est pas parce que quelqu'un est converti à Jésus-Christ qu'il est arrivé. Il ne fait que commencer. Il ne fait que démarrer. C'est le début de sa vie. Une tension nouvelle se saisit de lui. La tension vers l'avenir que Dieu lui a préparé. Et il est facile de constater le désappointement, la tristesse des auteurs bibliques, comme celui qui a écrit l'Épître aux Hébreux. Vous connaissez déjà ce passage, mais il vaut la peine de le redire dans le chapitre 5 de cet Épître aux Hébreux. Nous sentons un vrai regret chez l'auteur. Nous avons, au verset 11, nous avons beaucoup à dire sur ces choses qui précèdent et des choses difficiles à expliquer parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Quel texte ! Quel texte ! Ils en sont venus avoir besoin, j'allais dire, de nourriture de substitution en boîte, comme on en fait aujourd'hui pour ceux qui ne peuvent plus se nourrir normalement. Quel drame que celui-là ! Dans l'Épître aux Corinthiens, texte que nous aurons à étudier un de ces mercredis prochains, Mais ce ne sera pas prévu pour la semaine prochaine, puisque c'est au chapitre 3 que nous avons ces paroles de l'apôtre, chapitre 3, verset 1 et suivant. Pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter, et vous ne le pouvez pas, même à présent, parce que vous êtes encore charnels. On reviendra sur ce passage le mercredi. Donc, désappointement, lorsque, ayant espéré une croissance normale, on se rend compte que les gens végètent, stationnent, ou, pour être plus juste, régressent souvent. Et l'apôtre dépasse cette naissance pour projeter ses frères dans les sujets d'action de grâce qui concernent la suite. La suite, elle apparaît ici, dans ce texte de Pierre. Elle apparaît de façon assez intéressante, car la bénédiction par Pierre de la personne et de l'œuvre de Dieu fait qu'elle est toute orientée, justement, vers l'accomplissement du dessein de l'Éternel. Vers l'accomplissement. Il fait allusion au commencement, à la régénération, à la naissance nouvelle. Mais c'est pour mieux orienter les regards vers la suite et regarder de près. Ce projet, le projet divin, n'est réellement effectif que lorsqu'il est parachevé. Lorsque Dieu s'est appliqué à le conduire à son terme. Nous sommes sauvés, dit par ailleurs le texte biblique, en espérance. Nous sommes en devenir. Nous sommes en train de marcher. Et nous voyons que l'apôtre va nous aider à comprendre progressivement ce qu'est justement ce projet de Dieu. Et ainsi, nous nous rendons compte qu'il nous le présente de façon progressive. Et cela avec la répétition de trois prépositions. La même qui revient à chaque fois et qui va permettre d'expliciter la deuxième fois l'utilisation à la première, puis la troisième fois l'utilisation de la seconde. En fait, nous avons affaire, si j'ose dire, à des synonymes. Ainsi dit-il que les hommes, ces lecteurs, que nous avons été régénérés pour une espérance vivante. Vous voyez la finalité là. Le but. Nous n'avons pas été régénérés simplement pour commencer une vie qui s'arrêterait à son commencement, mais bien pour déborder ce début, pour une espérance vivante. Un petit peu plus loin, au verset suivant, vous avez « pour un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir ». Puis, au verset suivant, « pour le salut ». Donc, l'apôtre est en train d'orienter les regards vers ses frères et il commence par leur rappeler l'espérance. Il continue par expliciter l'espérance, l'héritage annoncé, et il achève en disant le salut. On aurait pu passer directement de régénérer pour le salut. Mais cette progression devrait aider à mieux comprendre le texte. Alors, comme ça s'avérait être un petit peu long, nous continuerons la semaine prochaine. Nous allons la semaine prochaine essayer de mieux saisir ce pour répété, pour une espérance vivante, pour un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. En attendant, bonne réflexion, bonne recherche, si vous avez envie de sonder le sujet, et cela ne sera que plus profitable. Amen.